Seigneur, que ta parole soit vérité dans nos vies. Qu'elle nous fasse grandir et vivre chaque jour. Qu'elle élargisse en nous l'espace de la foi. Que ton esprit habite nos âmes et nos corps et nous permette de saisir que tu es en vérité. Et de saisir quelle est ta volonté pour ce jour et pour demain. Amen. Donc nous lisons en Marc le chapitre 9, les versets 33 à 50. Ils vinrent à Capernaüm, et quand ils furent dans la maison, Jésus leur demanda : De quoi parliez-vous en chemin ? C'est-à-dire qu'ils parlent ici. Mais ils gardaient le silence car ils avaient discuté en chemin pour savoir qui d'entre eux était le plus grand. S'étant alors assis, il appela les 12 et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Puis il prit un petit enfant et le mit au milieu d'eux, et l'ayant pris entre ses bras, il leur dit : Celui qui reçoit un de ces petits enfants en mon nom, me reçoit. Et celui qui me reçoit, ce n'est pas moi qui le reçoit, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit : Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jésus répondit : Ne l'empêchez point. Car il n'y a personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse en même temps parler mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui donnera un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient, mieux vaudrait pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi que tu entres manchot dans la vie que d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres boiteux dans la vie que d'avoir tes deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Et si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car chacun sera salé de feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même. Et vivez en paix entre vous. Alors, dans beaucoup de Bibles, cet ensemble de versets, du verset 33 à 50, ont été coupés en plusieurs morceaux et les différents titres donnés aux différents morceaux, moi ça me gêne. d'entre vous n'a jamais été scandalisé? Tant de scandales existent sur tous les plans de vie des hommes et dans notre monde. Mais je pense que si nous ne pouvons pas ignorer la prolifération des scandales, il importe de ne pas être en soi-même la cause. Et ce passage le dit très expressément. Mais il ne dit pas que ça. Il nous montre aussi l'incompréhension des disciples, ce qui illustre la difficulté de suivre Jésus en raison de l'engagement que cela requiert et de la compréhension à saisir les événements avec le regard de Dieu. Le texte d'aujourd'hui commence par évoquer une discussion des disciples pour une question de préséance entre eux. Lequel est le plus grand? Dans ce questionnement, Jésus leur indique que celui qui va être le premier doit être le serviteur de tous, et il place au milieu d'eux un enfant et déclare « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Et ces versets, ils présentent une ressemblance avec un passage de l'Ancien Testament en Nombre 11, versets 25 et 29, qui rapporte l'histoire d'Eldad et de Médad. Alors voici de quoi il s'agit. Moïse avait appelé 70 hommes et il les avait convoqués à l'attente de leur rencontre. Mais il y en a que 68 qui y vont. Et deux d'entre eux, donc Eldad et Médad, ils n'y vont pas. Ils restent dans le camp. Ils reçoivent aussi l'esprit comme tous les autres. Et ils se mettent à prêcher. Mais c'est un comportement qui n'est pas de goût de tout le monde. Alors il y a quelqu'un qui se précipite vers Moïse et qui l'avertit en lui disant « Mais Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp. » Et Josué demande à Moïse de s'opposer à leur action en disant « Ils ne sont pas venus avec nous à la tente empêchés. » Et Moïse refuse. Et bien au contraire, il s'en réjouit, puisque l'Esprit du Seigneur les accompagne. Et même plus, Moïse, il aimerait que tout le peuple soit un peuple de prophètes. Donc, vous voyez, déjà, faire quelque chose alors que, entre parenthèses, vous n'êtes pas forcément le plus grand, ça pose question. Et là maintenant, une fois que Jésus leur a dit « Non, non, ce n'est pas vous qui êtes le plus grand, c'est celui qui est le serviteur de tous », il y a un autre problème de préséance. Il est relatif à ceux qui appartiennent au groupe et ceux qui n'appartiennent pas au groupe. Et Jésus refuse nettement de séparer les personnes selon cette distinction. Donc, bien que ce groupe des disciples soit bien délimité et ils ont bien conscience d'avoir reçu le pouvoir de chasser les démons, c'est Jésus qui leur a dit qu'ils allaient pouvoir chasser les démons, Jean il a exactement la même réaction que Josué dans la première lecture. Une réaction d'exclusion. Empêche-le. Et puis, on ne nous dit rien de cet homme. Mais peut-être qu'il n'a pas encore franchi le pas décisif de devenir disciple, mais il est certain qu'il n'est pas indifférent aux paroles et aux actes de Jésus. Et s'il pouvait accomplir un miracle au nom de Jésus, il est clair que ce nom avait de la valeur pour lui. Sans ça, il ne l'utiliserait pas. On ne va pas les utiliser ou se mettre sous le regard de quelqu'un en disant ben moi j'ai agi au nom d'un tel alors que non, celui-là il va pas du tout. Donc il a forcément le nom de Jésus a de l'importance pour cet homme, même s'il ne fait pas partie du groupe des 12. Ce n'est pas rien pour quelqu'un que de se référer au nom de Jésus. Et puis dans notre société, actuellement, des fois, se dire chrétien, donc une façon de se référer au nom de Jésus, c'est pas si évident que ça. C'est pas si facile. Moi, je me souviens, une fois, j'étais à Saint-Thieu, et je dis à une dame que je vais chez les protestants. Elle me dit, oh! Avec un air catastrophé, comme si c'était l'horreur que d'aller chez les protestants. Ça, je m'en souvenais plus, mais c'est parce que je parle que je... Donc Jésus intervient très fermement. Ne l'empêchez pas. Parce que l'empêcher d'agir au nom de Jésus, ça c'est quand même une façon de l'exclure. Et puis aussi peut-être de le scandaliser. Est-ce que cet homme ne serait pas scandalisé par les disciples si ceux-ci intervenaient pour lui interdire d'exercer au nom de Jésus sous le simple et unique prétexte qu'il ne fait pas partie de leur groupe? Jésus admet que quelqu'un puisse faire du bien en son nom, bien que n'appartenant pas au groupe qu'il a lui-même choisi. Il rejette complètement cet esprit d'effusion et essaie d'inculquer aux disciples l'absence d'hostilité et la tolérance. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Puis il ajoute, celui qui vous donnera à boire un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ ne restera pas sans récompense. Ben, l'eau, c'est vital pour vivre. C'est même l'ABC de l'hospitalité. Donc, donner à boire un simple verre d'eau, c'est un geste d'accueil, de bienveillance. Et dans le propos de Jésus, la motivation de celui qui donne à boire est importante. Celui qui vous donnera à boire du fait de l'appartenance au Christ. C'est pas n'importe qui va donner là à boire, c'est quelqu'un qui appartient au Christ. Donc la motivation, parce que vous appartenez au Christ, pardon, excusez-moi. Alors nous, on peut se poser la question. Sommes-nous des disciples sans barrière? Acceptons-nous aisément tous ceux qui n'ont pas suffisamment de foi pour se dire chrétiens, tous les hommes de bonne volonté qui font reculer la haine ou le malheur dans le monde, même s'ils ne se disent pas chrétiens. Parce que là, je peux vous dire qu'il y en a quand même beaucoup. Des gens qui ne sont pas et ne se disent pas chrétiens et qui font du bien. Mais savons-nous les accueillir et éventuellement répondre à leur quête de soif spirituelle? Savons-nous nous garder de tout esprit critique, négatif, de supériorité, d'exclusion? Donc Jésus nous donne l'obligation d'un grand respect pour autrui, quel qu'il soit. Respectons les autres. Et puis Jésus ne s'arrête pas là. Dans les versets suivants, il met très sévèrement en garde les disciples au sujet des scandales contre les petits. Donc le texte ne dit pas enfant, il dit petit quand même, hein, je suis... Et le texte grec utilise le verbe scandaliser. Et ce verbe scandaliser, il est traduit selon les dits par beaucoup de termes différents. Poser une pierre pour faire tomber, mettre un piège, scandaliser, se détourner de Dieu, être une occasion de chute, faire tomber dans le péché. Et toutes ces traductions, elles disent pas tout à fait la même chose, mais elles se rejoignent et elles précisent le sens spirituel de ce mot scandaliser. Ainsi, le scandale est tout ce qui entrave notre relation avec Dieu et met la foi à l'épreuve. Et puis les petits, ben, c'est pas simplement les enfants. Les enfants font partie, bien sûr, mais c'est pas simplement les enfants. Mais c'est aussi ceux qui éprouvent une faiblesse dans leur vie. Qui n'a pas été faible un jour ou l'autre dans sa vie? Mais également les personnes qui n'ont pas une foi absolument solide et ferme. Aussi, ce petit, ce peut être chacun de nous à un moment donné de sa vie. Et plus encore, ce petit qui a la foi, c'est ce qui en nous est mystérieusement relié à Dieu et qui sait ce qui fait vivre et ce qui fait mourir. C'est ce qui nous dit en nous, je crois, et qui demande une foi plus grande. Et puis, vous remarquerez que dans les versets précédents, Jésus, après avoir invité les disciples à se faire petits comme les enfants et à accueillir les enfants comme les petits, il insiste et puis il leur dit, ben, si vous accueillez bien de ces petits, ce n'est pas uniquement moi que vous accueillez, c'est aussi celui qui m'a envoyé. Donc il y a tout un enchaînement, une cascade. L'accueil du petit et le fait de ne pas le scandaliser, eh ben, ça ne s'arrête pas simplement juste à ce moment-là. Et puis, comme il est d'une grande sévérité avec quiconque est source de chute spirituelle, pour les petits qui croient en lui, on trouve aussi, pas dans ce texte-là, mais dans un autre, « Malheur à celui qui scandalisera l'un de ses petits. » Pour le Seigneur, le scandale entraîne vers le péché, et du péché vers la mort spirituelle. Et là aussi, il y a, si j'ose dire, toute une cascade d'événements qui s'enchaînent. Et Jésus, en spécifiant qu'il est préférable pour celui qui provoque le scandale d'être noyé dans la mer, nous dit que l'essentiel de l'essentiel est de ne pas être source de choses pour autrui. Et qu'il vaut mieux être détruit soi-même que de détruire les autres. Sur le plan spirituel. Jésus est d'une violence radicale contre toute personne qui déchire la relation d'autrui à Dieu. Alors, il a bien parlé du scandale vis-à-vis d'autrui, et puis il enchaîne avec le scandale pour soi-même. Parce que notre manière d'être, elle influence les autres. Et que nous soyons conscients ou pas, de manière active ou passive, nous pouvons être une occasion de chute par nos paroles, par nos actes, mais aussi parce que nous ne le faisons pas, ou par le décalage entre plusieurs aspects de nos vies. Et ce qui n'est pas scandale pour l'un, ben ça peut être scandale pour l'autre. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, mais minime. Il y a bien longtemps, quand j'étais adolescente, comme je ne suis pas toute jeune, ça remonte à longtemps, famille de mes parents. Et puis à l'époque, il y avait encore une messe de minuit. Et le monsieur chez qui nous avions passé le Noël désirait aller à la messe de minuit, ce qui n'avait rien de répréhensible en soi, mais ce qu'il voulait, c'est être volontairement en retard pour que la bourgeoisie du lieu puisse voir que lui, il allait à la messe de minuit. Je peux vous dire que pour moi, ça a eu un effet dévastateur. Je me suis dit, si c'est ça la religion, j'en veux pas. Et ça m'a éloigné pendant, allez, je vais dire, 20 à 30 ans peut-être plus. Alors, lui n'avait peut-être pas l'intention de me scandaliser, et puis il n'avait probablement aucune idée de que ça pouvait scandaliser quelqu'un. Alors, je ne sais pas quel effet ça a eu sur le reste de ma famille, hein, mais pour moi, c'était vraiment une catastrophe. Oui, c'est minime, hein. C'est pas dire, je vais dire du mal de Jésus ou quoi que ce soit, hein. Non, c'est vraiment tout petit comme ainsi. Donc, il y a vraiment lieu de prendre garde à notre comportement à l'égard des autres. Et notre comportement ne doit pas empêcher quiconque d'aller aussi modestement qu'il le peut vers Dieu à partir de sa situation, à partir de sa foi, à partir de son chemin, quel que soit s'il est au tout début du chemin, en cours de chemin, ou presque à la fin de sa vie, quoi. Alors on peut aussi se poser la question, en quoi suis-je une pierre d'achoppement pour autrui? Et cette seule question, ben c'est déjà une invitation à la conversion dès que l'on a conscience que le scandale détruit. Et puis Jésus poursuit, ben, si ta main, ton pied, tes yeux te scandalisent, ben, tu coupes tout, quoi, tu te sépares de tout. Alors, il ne nous demande pas de nous mutiler physiquement dans notre corps. Mais ces phrases avec ces images violentes qui nous paraissent exagérées, qui d'entre nous n'a pas l'impression que c'est vraiment exagéré. Jésus, il veut provoquer notre intelligence et notre cœur afin de nous amener à réfléchir, à comprendre l'importance de ce qui est en jeu dans le scandale. Parce que le scandale, il n'est pas simplement mortifère vis-à-vis d'autrui, mais vis-à-vis de nous-mêmes. Et le respect que le Seigneur nous demande de donner aux autres, eh bien, il nous demande de nous respecter aussi nous-mêmes. Et si on agit mal, ou si on agit de manière opposée à ce que nous dit le texte biblique, quelque part, on ne se respecte pas soi-même. Enfin, je ne sais pas comment vous comprenez, mais voilà. Donc, il faut essayer de ne pas non plus abîmer en chacun de nous la foi qui cherche à grandir. Et on peut aussi revenir à une question similaire à la précédente. En quoi, dans mon cœur, mes pensées, mes actes, suis-je une pierre d'achoppement pour moi-même? Qu'est-ce qui me fait tomber? En quoi est-ce que je fragilise grandement ma relation à Dieu? Parce que pour quiconque, rien n'est plus important que la relation à Dieu. Et Jésus nous le dit tout aussi clairement que possible, que l'important c'est d'entrer dans la vie, d'entrer dans le royaume de Dieu. D'ailleurs le texte utilise les deux termes, entrer dans la vie et entrer dans le royaume de Dieu. Alors les deux termes sont peut-être proches, pas tout à fait synonyme, mais bon. Il nous dit, n'essayez pas d'aller dans la gêne. Hein. C'est le lieu où étaient entretenus des feux destinés à brûler tous les déchets, à détruire tout ce qu'il ne faut pas même garder. Donc, d'une façon symbolique, il nous demande de rompre avec tout ce qui est incompatible avec la vie en lien avec Dieu. Détruisez tout ce qui vous habite, détruisez tout ce qui a besoin d'être purifié, quoi. Et en plus de l'image du feu qui détruit et qui purifie, il ajoute l'image du sel. Vous savez tous que le sel a une propriété de conservation des aliments. Alors, le feu et le sel sont délibérément mis ensemble au verset 49, « Chacun, en effet, par le feu sera salé. » Donc, il y a plusieurs interprétations possibles de ce verset, mais une des interprétations possibles est de le comprendre comme un symbole de pureté, de fidélité. Alors, on peut aussi l'entendre comme être rempli de l'Esprit de Dieu. Et si je prends cette interprétation, chacun, en effet, sera rempli de l'Esprit de Dieu. Et avoir du sel actif en soi-même, c'est une puissance d'amour qui nous donne d'agir en étant au service de tous, en acceptant de donner de soi-même pour que l'autre vive. C'est complètement à l'opposé du scandale. Le scandale, ça va détruire l'autre, et être rempli d'amour et de l'esprit, ça va nous permettre d'agir pour que l'autre vive. C'est à l'opposé. Et puis la dernière proposition du texte, soyez en paix les uns avec les autres. C'est un lien. Le terme soyez en paix, c'est un peu ce qui va lier tous les versets du texte. C'est un peu comme une conclusion, si j'ose dire. La paix, elle manifeste et prouve la présence de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Vivre dans le royaume de Dieu, je ne sais pas qui dit le texte, entrer dans le royaume, c'est être en paix les uns avec les autres. C'est aussi servir, accueillir, nouer des relations, mais des relations vraies, sincères, fraternelles. Des relations d'amour. Alors ce texte, il montre que l'orgueil, l'exclusion, le scandale sont incompatibles avec une vie vécue dans l'amour. Et sont des pièges mortels. Et mortels pour tous. Pour Jésus, mieux vaut mourir d'une mort effroyable que de mettre de la foi des autres et de la nôtre propre en danger. Le salut, le royaume de Dieu, c'est primordial. Notre vie avec lui est de la plus haute importance. Notre accueil pour les petits, notre attention pour les frères sont aussi de la plus haute importance. Ils appartiennent aussi à Jésus. Donc Jésus veut faire percevoir à ses disciples une manière de considérer la relation à autrui comme une relation d'accueil. Et aujourd'hui, où moi je vois deux personnes que je ne connais pas, j'ai envie de dire bienvenue. Soyez les bienvenus. Une relation d'amour inconditionnel, et alors, cette entrée dans le règne de Dieu. Et entrer dans le royaume de Dieu, C'est pour ici et maintenant. C'est pas uniquement après notre mort. Ça commence déjà maintenant. Ici. Là. Dans ce temple. En dehors de ce temple. Rien n'est plus important que notre relation à Dieu et aux autres. Et bien que cela n'apparaisse pas explicitement dans ce texte de Marc, n'oublions pas que Paul écrit « Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. » Le thème du scandale dans le Nouveau Testament est lié au thème de la foi comme libre accueil du message du Christ. Nous prêchons un Messie crucifié. Accepter Jésus-Christ, Marc l'écrit de manière moins abrupte et peut-être plus douce que Paul, par les paroles de Jésus, « Quiconque me reçoit, ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. »